Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est Idée Noire, sur le 102.2 de Radio Canus, ça n'a pas changé. L'émission de la coordination des groupes anarchistes, et on est parti pour une heure. Et
oui, émission. On est quand même là.
Voilà, on n'avait rien à faire. On s'est dit, tiens, si on allait faire un bout d'émission, pas mal de choses, je pense, dans le programme de ce soir.
Donc, puis vous aurez peut-être le générique en plein la semaine prochaine, on verra.
Toujours en panne de cassette.
On verra ça, c'est pas grave, on va essayer de le choper autrement. Je l'avais dit la semaine dernière, mais c'est pas grave, on l'a pas fait. Pour démarrer, alors, ça va.
On peut dire peut-être que samedi, il n'y aura pas de permanence.
Il n'y aura pas de permanence à la plume noire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde de disponible là, en cette fin d'année, ce qui est un peu normal aussi. Hein. Mm-hmm. Donc, il n'y aura pas de permanence au samedi après-midi. Elles reprendront donc mercredi prochain de 17h à 19h. Donc voilà, et puis on va démarrer, donc comme un peu comme la semaine dernière, pas mal d'infos en vrac. Je voulais vous parler pour démarrer ce soir du collectif Kotchenko. On avait parlé plusieurs fois dans l'émission, il y avait même une ou deux actions sur Lyon qui avaient été menées par le collectif La CLAF, hein, la campagne libertaire antifasciste. Et donc du coup, c'était pour vous remettre, il y a un bulletin du coup qui a été créé, le numéro 1 est sorti en novembre 2015, donc tout récemment. Je vais vous lire un peu le texte d'intro. Donc voilà, l'État russe a condamné Alexandre Kotchenko à 10 ans d'emprisonnement, Gennady Afanassiev à 7 ans et Oleg Sentsov à 20 ans de la même peine. L'accusation de terrorisme qui a servi à couvrir ces ignobles décisions d'un tribunal qui exécute les ordres du pouvoir politique russe n'a aucun fondement. Depuis plusieurs mois, nos organisations ont lancé une campagne pour informer de la situation faite notamment à Alexandre Kotchenko, connu en Crimée pour ses engagements antifascistes, syndicaux, anarchistes, écologistes. Nous soutenons bien entendu aussi le cinéaste Sentsov, Afanassiev ainsi que toutes et toutes celles et tous ceux qui sont victimes de la répression du régime de Poutine. Désolé, c'est sur la gorge qui...
oui, ça picote et ça gêne.
Alexandre Kotchenko, donc Oleg Sentsov et Gennady Afanassiev, sont condamnés à des années de camp de travail parce qu'ils luttent contre l'oppression exercée par l'État russe, tant sur le territoire russe qu'en Crimée. Celle-ci est inadmissible et nous saluons celles et ceux qui résistent. Ça va être dur. Kotchenko est étudiant et militant syndical. Il travaillait aussi comme postier en parallèle de ses études. Il défend activement par sa pratique le droit de s'organiser librement, le droit de créer et faire vivre des organisations associatives, syndicales, écologistes ou politiques. Il fait partie des hommes et des femmes qui luttent contre l'extrême droite, qu'elle soit ukrainienne, russe ou autre. C'est compliqué. Parce qu'il lutte contre la corruption et pour l'égalité des droits entre tous et toutes. Kotchenko est la cible des clans oligarchiques en Russie et en Ukraine. Kotchenko milite pour le droit de chaque peuple à décider de son avenir.
Oui, c'est l'hiver. Hein.
À travers Kotchenko, ce sont les libertés démocratiques de tous et toutes et de toutes que nous défendons. Notre démarche, comme celle d'Alexandre Kotchenko, s'oppose donc à celles et ceux qui veulent restreindre ces libertés. Nous exigeons la libération donc de Kotchenko, de Afanassiev et du cinéaste ukrainien Sentsov. Pour la libération immédiate donc des trois personnes et pour les libertés démocratiques dans tous les pays, nous appelons à amplifier la solidarité internationale afin de dénoncer leurs enlèvements et leur détention par les autorités russes, exiger leur libération immédiate et pour que le gouvernement ukrainien revendique explicitement leur libération. Nos organisations donc, qui font partie de ce collectif se réunissent régulièrement pour décider des actions à mener en France pour obtenir la libération des prisonniers et prisonnières politiques de l'État russe. Nous sommes en lien avec des mouvements de nombreux autres pays. C'est une campagne internationale que nous menons pour la liberté de nos camarades et contre le terrorisme d'État du pouvoir politique russe. Et vous voulez vous lire aussi un petit peu ce qu'il y a dans ce bulletin. C'est la déclaration d'Alexandre Kotchenko, donc lors de son procès qui s'est tenu au mois d'août 2015. Je réfute l'accusation de terrorisme. Ceci est un procès fabriqué et motivé par des raisons politiques. La meilleure preuve est qu'on m'a arrêté pour avoir endommagé en tentant d'y mettre le feu la porte d'un local, mais cet acte de vandalisme n'a été requalifié en acte de terrorisme que 10 jours plus tard, sur le 13 mai, quand Afanassiev et Tcherny ont été obligés de témoigner dans le sens qui convenait à l'enquête. La formulation de l'acte d'accusation est en elle-même un chef-d'œuvre, a participé à une tentative d'incendie pour déstabiliser les organes du pouvoir en Crimée avec le but de faire pression sur le gouvernement russe pour qu'il accepte de désaxaner la Crimée. Ouh. Dans le droit fil de cette logique, les gens qui utilisent un préservatif pourraient être accusés de vouloir la déstabilisation démographique du pays et de porter atteinte aux forces armées en empêchant la naissance de futurs soldats. De même, on pourrait traiter de crime le fait de critiquer un fonctionnaire, car cela ruinerait à l'image du pays sur l'arène internationale. On pourrait faire toute une liste de ces formulations extravagantes. Pendant le procès, nous avons pu entendre des témoignages prouvant que Sentsov et Afanassiev avaient été torturés par des agents du FSB, et ce sont ces gens-là qui osent nous traiter de terroristes. Tous ces procès qui ont lieu en Russie, en plus du nôtre et de celui de Nadejda, Savchenko ont pour but de prolonger la vie de ce régime, alors qu'en nous jetant en prison, ce régime rapproche lui-même le moment de sa fin. Et ceux qui croyaient encore en la justice et l'ordre commencent à perdre confiance, car ils voient que ce qui se passe. Demain ou après-demain, ce sont vos fameux 86% qui renverseront eux-mêmes ce régime autoritaire. Je voudrais encore ajouter ceci dans la lettre qu'Afanassiev a écrite dans sa prison, depuis la prison de Rostov, et dont Dimitri Dins a fait lecture ici. On apprend qu'un agent du FSB lui avait dit un jour: le jour où tu vas déposer au procès sera le jour le plus important de ta vie. Apparemment, cette phrase a frappé son cœur et sa conscience, et il l'a interprétée à sa manière. Je veux saluer le courage qu'il a fallu à Afanassiev pour prendre la décision de revenir sur le témoignage qu'on lui avait extorqué. Je voudrais également remercier ceux qui nous soutiennent, Oleg et moi. Je suis d'accord avec les arguments de nos avocats. Ils sont justes et raisonnables. Pas question pour moi de demander quoi que ce soit à ce tribunal. Nous allions boire un petit coup, du coup. Hein.
Allez, on lève le coude aussi, ici, de temps en temps.
Voilà. Voilà. Donc vous verrez, sur ce bulletin, il y a aussi forcément un soutien qui est appelé pour participer à la campagne unitaire. Donc vous pouvez vous rendre sur le site, vous tapez Collectif Kotchenko et vous trouverez tout ça. Donc voilà. Pour cette première page, on va voir si on arrive à aller plus loin que ça ou pas.
T'attaques la seconde
Oui, on va essayer. Surtout que la deuxième est un peu longue. Donc on va voir. On va parler de violence policière, avec des trucs qui se passent dans le 93, avec un comité de soutien des amis de la famille Kreker. Vous avez sûrement peut-être entendu parler de ce qui se passe là. Elle organisait une conférence de presse, c'était aujourd'hui, au 21 Udoger à Pantin, à 16h, afin d'informer en détail des événements survenus et annoncer la création d'un comité de soutien des amis de la famille Kreker afin que la vérité et justice soient faites quant aux préjudices qu'ils viennent de subir à vie. Voici le communiqué de presse de ce comité de soutien. Lundi 14 décembre 2015 à Pantin, dans le quartier Auger, Zara Kreker, 45 ans, mère de famille, de 4 enfants et travailleuse sociale à la mairie de Paris, rentre de son travail aux alentours de 14h45. Approchant de son domicile, elle aperçoit son fils Bilal, 18 ans, à genoux et hurlant de douleur. Elle apprend ainsi de sa bouche que, suite à un contrôle d'identité, il vient de subir un passage à tabac et que les policiers l'ont abandonné sans soin sur le bitume. Touché au testicule, sa mère le conduit aussitôt à l'hôpital pour qu'il puisse être hospitalisé d'urgence. Les examens médicaux révèlent l'écrasement d'un testicule avec formation d'un hématome suite à un violent coup de genou porté par un des policiers. Il est alors hospitalisé et opéré sur le champ dans la nuit du 14 au 15 à 3h du matin. Le mardi 15 décembre, à sa sortie de l'hôpital à 18h, et comme le permet la loi, Bilal se rend avec ses parents pour porter plainte au commissariat de Pantin, dont sont issus les policiers incriminés. Ils essuient un refus d'enregistrer la plainte et se voient forcés d'aller porter plainte dans un commissariat du 19e arrondissement. 15 jours après, le 26 décembre 2015, Zara Kreker entre dans son appartement lorsqu'elle entend une forte déflagration venant de l'extérieur. Inquiète, elle regarde par la fenêtre et demande aux jeunes présents au pied de l'immeuble ce qui a bien pu se passer. Les jeunes lui apprennent que son fils Bilal vient d'être arrêté, menotté et enfermé dans une voiture de police. Prise de panique au regard notamment de l'état de santé de son fils, pieds nus, elle descend au bas de l'immeuble pour s'enquérir d'elle-même de ce qu'on vient de lui apprendre. Malgré ses demandes réitérées cordialement pour connaître les motifs de son arrestation, elle est prise à partie par les policiers et la passe aussi à tabac en aspergeant de gaz lacrymogène. Wassil, un de ses fils âgés de 15 ans et demi, arrivant sur les lieux, assiste traumatisé au tabassage de sa mère. Alors qu'il leur demande d'arrêter, il se voit subir à son tour un passage à tabac. Depuis, Wassil et Bilal, ainsi que 4 autres jeunes mineurs, ont été placés en garde à vue. Dans le contexte actuel de multiplication des abus policiers, au moment où l'expression d'une parole raciste se libère ouvertement face à cette situation tragique qui vient injustement frapper une famille qui vivait jusque-là tranquille, honorablement et sans aucun problème à Pantin, alors que des rumeurs courent déjà pour salir la réputation et la dignité d'une femme qui n'a rien à se reprocher, la famille Kreker organise une conférence de presse, donc c'était tout à l'heure, afin d'informer en détail des événements survenus et annoncer donc cette création du comité de soutien des amis de la famille Kreker, ainsi que vérité et justice soient faites quant aux préjudices qu'ils viennent de subir à vie. Donc voilà pour cette petite brève violence policière sur Paris notamment. C'est pas la première fois et malheureusement ce sera pas la dernière. Et je voulais en profiter pour faire un bon point. Alors on l'avait déjà fait une fois, mais là il y avait un article aussi assez intéressant trouvé sur les violences policières aux États-Unis et surtout sur le racisme et la militarisation, la face cachée de la police américaine. Voilà, je vais vous lire tout ça si j'y arrive. Le 19 avril, dans la ville américaine de Baltimore, donc Maryland, si vous en souvenez, un drame s'était répété. Freddie Gray, on avait parlé, un homme noir de 25 ans, est mort des suites d'une fracture des vertèbres cervicales, une semaine après son arrestation musclée par 3 policiers pour possession d'un couteau. Après plusieurs soirs de rassemblements populaires, la police de Baltimore a reconnu, le 24 avril dernier, que le jeune homme aurait dû recevoir une assistance médicale aussitôt après son arrestation. Une vidéo filmée par un passant le montre immobilisé au sol, hurlant de douleur, après avoir été immobilisé par les 3 agents. Sa moelle épinière a été sectionnée à 80% au niveau du cou, selon l'avocat de sa famille. Par rapport à cette affaire, 6 policiers sont donc poursuivis, notamment pour meurtre et violence volontaire. C'est pas souvent que les policiers sont poursuivis aussi là-bas. Donc c'est intéressant de le souligner. Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte particulièrement tendu qui a vu en quelques mois se multiplier les cas d'hommes noirs tués par des policiers blancs dans des situations souvent troubles. On se rappelle la mort de Michael Brown, un policier abattu par un policier à Ferguson, qui avait suscité en août de violentes confrontations entre les manifestants et les forces de l'ordre, tout comme la décision du grand jury de ne pas poursuivre le policier auteur des tirs. 3 éléments sont utiles pour comprendre l'indignation et l'émotion suscitées par ces événements. D'une part, loin d'être isolé, ces drames s'ajoutent à une longue liste de violences policières. D'autre part, on assiste depuis une vingtaine d'années à une militarisation de plus en plus importante des policiers poussée par une puissante industrie de la défense. Enfin, tout cela a lieu dans une Amérique qui peine à éradiquer un racisme systémique et où les préjugés sont tenaces. Donc, il y a tout un paragraphe qui refait un peu une histoire de brutalité policière. La liste est longue, la mémoire collective se souvient évidemment de l'affaire Rodney King, tout le monde, cet homme noir passé à tabac en 91 par des policiers dont l'acquittement avait déclenché de violentes émeutes. Lui n'en est pas mort, mais pour de nombreux autres noirs aux États-Unis, innocents, non armés, l'usage excessif de la force tue. Alors en 2015, il y a quelques exemples. Walter Scott, noir, 50 ans, en Caroline du Sud, après un banal contrôle routier pour un feu cassé, il est abattu de 5 balles par un policier qu'il poursuivait dans un jardin public. La légitime défense invoquée par l'agent Michael Slager a rapidement été remise en question par la révélation d'une vidéo filmée par un témoin. Heureusement qu'il y a des fois des vidéos. À aucun moment on ne le voit menacé par Walter Scott. Donc ce policier-là a été inculpé pour meurtre, placé en détention provisoire et licencié. Il y a eu d'autres affaires en 2015. Eric Harris, 44 ans, le policier en fait a fait une erreur, il croyait utiliser son taser et en fait il a utilisé une arme à feu.
C'est ballot. Ça se ressemble pas.
Ouais, quand on voit qu'en France on commence à armer un peu tout le monde, un peu peur. Donc voilà, quand même ce flic a été quand même inculpé pour homicide involontaire. Il y a aussi Christian Taylor, pareil abattu par la police. Le flic l'a été licencié en attente du grand jury. Et Kitonio Le Grillet, qui lui souffrait de troubles mentaux, qui a aussi été abattu, c'est très récent ça, par la police. Il y a une mère de famille aussi qui s'est pris des balles parce qu'elle était derrière la porte. Donc voilà, là aussi l'enquête est en cours. On se rappelle un petit peu comment ça se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a, pour que les romans aient des poursuites engagées, il faut qu'il y ait un grand jury qui se réunisse et qui prenne la décision pour savoir si l'affaire va aller plus loin, va aller au tribunal ou pas. Donc quand le grand jury décide que c'est pas le cas, il n'y a pas de suite judiciaire. En 2014, on s'appelle de Eric Garner, un noir, 43 ans, à New York, soupçonné de vente illégale de cigarettes. Il est victime d'une arrestation musclée sur le terminal portuaire de Staten Island. Non armé, l'homme en surpoids et asthmatique se plaint de ne pouvoir respirer à plusieurs reprises. Étranglé par les policiers, il perd connaissance sur le bitume et meurt quelques instants après son arrivée à l'hôpital. Là, pas de poursuite, elles ont été abandonnées. Il y a eu un accord entre la ville de New York et la famille d'Eric Garner, un accord de 6 millions de dollars. On sait que ça aussi c'est une spécificité de la justice américaine, ça, savoir à pouvoir négocier les poursuites. En 2014 aussi, Tamir Rice, noir, 12 ans, dans l'Ohio. Donc le jeune garçon joue dans la rue avec un pistolet factice qu'il s'amuse à pointer sur les passants. Quand un témoin prévient la police, peu après, 2 agents descendent d'une voiture et l'un d'eux, Timothy Loman, abat Tamir Rice alors qu'il semble vouloir prendre quelque chose à sa ceinture. Les poursuites ont là aussi été abandonnées. On a aussi Laquan McDonald, 17 ans, 16 coups de feu, il a reçu. Le flic a quand même été inculpé pour meurtre avec préméditation, quand on tire 16 balles dans quelqu'un. En 2013, Jonathan Ferrell, noir, 24 ans, en Caroline du Nord, blessé dans un accident de voiture et ensanglanté, il sonne chez une dame pour demander de l'aide. Elle prend peur et appelle la police. L'agent Randall Kerrick lui tire 12 fois dessus. 10 balles l'atteignent, il n'était pas armé. En 2012, Ramerley Graham, noir, 18 ans, New York, suspecté de détenir de la marijuana, poursuivi jusqu'à l'appartement de sa grand-mère où les policiers pénétrèrent sans mandat et l'abattent d'une balle dans la poitrine devant son petit frère de 6 ans. Il n'était pas armé. Tarika Wilson en 2008, noire, 26 ans, dans l'Ohio. À la recherche de son compagnon, une unité spéciale, le SWAT, pénètre dans la maison de Tarika Wilson où elle est abattue. Son fils de 15 mois qu'elle tient dans les bras est blessé, elle n'était pas armée. Aux quelques centaines d'homicides commis par des policiers chaque année, 497 rien qu'en 2009 sont les estimations de l'American Civil Liberties Union. Il faut opposer le fait que très souvent, quel que soit le degré d'excès d'usage de la force, les responsables sont acquittés quand ils ont été mis en examen. En 2013, Andy Lopez, hispanique, en Californie, l'adolescent a été surpris dans une allée avec une arme en plastique. L'officier Gelhouse a tiré 8 balles en l'espace de 6 secondes, dont 7 ont atteint Andy Lopez. Aucune charge n'a été retenue. En 2006, Sean Bell, noir, 23 ans, New York, au petit matin de son mariage, Sean Bell et deux amis sortent d'un club. La voiture poursuivie par la police est à l'arrêt lorsque les officiers déchargent 50 balles. 4 balles tuent Sean Bell, ses amis survivent à 19 et 3 balles respectivement. 3 des 5 policiers ont été jugés pour homicide et mise en danger. Ils ont été reconnus non coupables. En 99, Amadou Diallo, noir, 23 ans à New York, confondu avec un violeur recherché. Amadou Diallo est abattu devant chez lui par 4 policiers en civil alors qu'il leur tendait ses papiers d'identité pour s'identifier. Il est touché par 19 des 41 balles tirées. Les 4 policiers sont acquittés. Parfois, sous la pression de l'opinion publique ou d'un contexte politique particulier, les policiers sont condamnés. La lourdeur des peines est bien sûr variable. En 2009, pour Oscar Grant, 22 ans, noir, en Californie, arrêté avec plusieurs personnes sur le quai de la station Fruitvale, Oscar Grant était menotté et à plat ventre quand l'officier Merchel lui a tiré dessus dans le dos, expliquant plus tard qu'il a confondu son arme avec son taser. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, formidable. La scène qui avait été filmée par nombreux témoins. Merchel a été reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à 2 ans de prison. En 2006... Catherine Johnson, 92 ans, noire, Atlanta, en Géorgie. Probablement sur de fausses informations, une unité spéciale de police envahit la maison de Catherine Johnston et la recherche de drogue. Effrayée, elle tire un coup de feu avec un vieux pistolet ne blessant personne. Les policiers répliquent en déchargeant 39 balles, donc 6 atteignent la vieille dame. Mourante, elle est menottée au lit. Les policiers tentent plus tard de maquiller la scène, cachent de la drogue chez elle et demandent à l'informateur un faux témoignage. 3 officiers ont été condamnés à 10, 6 et 5 ans de prison pour différents chefs d'accusation. Homicide volontaire, faux témoignage, parjure. Et enfin, un dernier exemple. En 1997, Abner Lumia, 30 ans, noir, New York. Après une bagarre entre deux femmes dans laquelle lui et plusieurs hommes interviennent, la police arrive. Elle arrête Abner Lumia sur la fausse accusation d'un coup porté à l'officier Volpe. Dans la voiture, les policiers le frappent avec leurs poings et leurs radios. Au commissariat, les violences se poursuivent jusqu'au viol lors duquel Abner Lumia a les mains menottées dans le dos. Il est resté hospitalisé 2 mois. Justine Volpe a été condamnée à 30 ans de prison pour avoir enfreint les droits civiques de l'OUMA pour obstruction à la justice et faux témoignage. Charles Schwartz a été condamné à 15 ans de prison pour avoir aidé Volpe lors du viol. Donc voilà, après il y a certaines statistiques hein, de 2003 à 2009, le bureau de la justice rapporte 4813 morts liées à une arrestation dont les causes sont pour 5% naturelles, 5% inconnues, 6% accidentelles, 10% d'intoxication, 11% suicide et 61% d'homicide. Ils ont fait aussi une répartition raciale un petit peu en pourcentage sur par rapport à la population américaine. Donc 63% de blancs, 12% de noirs, 16% d'hispaniques et 7,8% classés en autres. Et il y a le lien qui est assez intéressant qui est fait sur l'article, c'est la militarisation de la police voilà, et l'usage excessif de la force. Il faut savoir qu'il y a 4,3 milliards de dollars transférés par le ministère de la Défense à la police en équipement militaire et paramilitaire entre 90 et 2012, selon le rapport de l'association dont on parlait tout à l'heure. Que plus de 500 agents de police aient reçu un véhicule blindé au cours de l'année 2011-2012 pose question sur la nécessité de tels équipements conçus pour des zones de combat militaires, mais aussi sur les intérêts commerciaux et financiers de cette politique. Ainsi, Lockheed Martin, fabricant d'armes, recevrait chaque année 29 milliards de dollars du Pentagone, selon William Hartung, expert en sécurité et emploie plus de 130 000 personnes. On peut aussi citer l'entreprise ATK, principal fournisseur de munitions de petit calibre, dont le chiffre d'affaires atteint 2,9 milliards de dollars et qui est basé dans le Missouri. Donc voilà, depuis les années 80, les unités spéciales d'intervention, le SWAT, équivalent du GIGN en France, se sont développées à un point tel que Peter Kraska, professeur à l'université Eastern Kentucky, estime que plus de 80% des villes de plus de 25 000 habitants en possèdent une. Il estime aussi que ces unités créées pour gérer des situations à haut risque, telles que les prises d'otages, sont désormais déployées plus de 50 000 fois par an, contre 3 000 en 1980. Lourdement armées et dotées d'un véritable arsenal militaire, ces unités sont en fait largement utilisées dans le cadre d'opérations de faible intensité, comme l'exécution de mandats de perquisition. L'effet de terreur produit lors de ces interventions touche de façon disproportionnée les minorités, au premier rang desquelles les Noirs. Une équipe du SWAT inspecte des maisons. Voilà. Donc, on peut voir des unités d'élite déployées pour des infractions mineures. Donc, 79% concernant des mandats de perquisition, 7% sur des prises d'otages et 14% pour autres. Voilà. 62% des déploiements de ces unités concernent donc des mandats de perquisition pour des affaires de drogue. En 2011-2012, le déploiement des unités SWAT a concerné pour 20% des blancs, 11% des hispaniques, 39% des noirs. Pourtant, comme le montre l'exemple de Ferguson, le suréquipement accroît les violences et les risques, tant pour les policiers que pour les citoyens, en encourageant les policiers à adopter des comportements de militaires, chargés de combattre un ennemi intérieur au lieu de protéger et de servir la population. Par ailleurs, casqués et méconnaissables, les policiers sont déshumanisés et s'exposent à des réactions plus hostiles. Les préjugés et stéréotypes raciaux permettent de comprendre comment un policier armé peut se sentir menacé par un adolescent, un adolescent innocent et non armé, en l'occurrence Michael Brown, au point de lui tirer dessus à 6 reprises, dont 2 à la tête. Un certain nombre de stigmates associés à la figure du délinquant structurent le travail des policiers. Ainsi, en 2008, les conducteurs noirs avaient 3 fois plus de risques d'être fouillés lors d'un contrôle routier que les blancs, selon un rapport du département de la justice. 70% des villes où la population noire représente au moins 5% de la population totale connaissent une sous-représentation des noirs dans les effectifs de la police par rapport aux blancs. Dans ce contexte, les contrôles aux faciès effectués quotidiennement dans les quartiers où vivent les minorités. La ségrégation résidentielle reste largement dominante, entame les relations entre les policiers et minorités, en particulier les jeunes hommes noirs et latinos. On a un nombre de contrôles d'identité à New York en 2012, donc 284 000 sur des personnes noires, 165 000 sur des personnes hispaniques, 50 000 sur des personnes blanches. Donc voilà, après il y avait la population notamment de New York et les proportions ne sont pas autant voilà par rapport à ces contrôles. Un autre cas, hein, Frayvon Martin, noir, 17 ans, abattu dans la rue par un vigile qui le suspectait de vouloir commettre un cambriolage parce qu'il portait un pull à capuche. Il n'était pas armé, un paquet de bonbons avait été retrouvé dans sa poche. Voilà, encore un exemple, hein, la déshumanisation des enfants et des adolescents noirs, selon une étude récente publiée par l'Association américaine de psychologie, explique les disparités raciales dans les condamnations ainsi que l'usage disproportionné de la force à leur rencontre. Ainsi, les enfants noirs sont systématiquement perçus comme plus âgés, 4,5 ans en moyenne. Cela a pour conséquence que les enfants noirs ont 18 fois plus de risque d'être jugés comme des adultes que les enfants blancs. Une fois en prison, les enfants jugés comme des adultes ont 2 fois plus de risque de subir des violences de la part d'un gardien, 5 fois plus de risque d'être agressés sexuellement et ont 8 fois plus de risque de se suicider. La politique d'incarcération massive menée depuis 4 décennies principalement dans le cadre d'une guerre contre la drogue a ainsi majoritairement affecté les noirs qui connaissent des taux d'incarcération supérieurs et des peines plus longues. Ainsi, pour 2 Américains blancs, 11 Américains noirs sont incarcérés. Donc voilà pour ce petit article un peu long, mais sur les violences policières, tout en sachant que, voilà, qu'on commence de plus en plus à prendre modèle sur cette organisation policière-là en France. Hein, voilà, avec l'armement de plus en plus présent des policiers, les violences policières qui redoublent, les morts dues aux interventions policières aussi. Donc voilà, donc on, ça permet de faire un peu lien avec ce qui se passe aussi ici en France. Donc voilà.